Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, le grand angle du jour, une énième crise politique à venir en France. Les chances du Premier ministre d'obtenir la confiance des députés lundi prochain sont quasi nulles. Une crise sociale risque-t-elle de s'ajouter à cette crise politique? Notre invité est un grand expert de la vie politique française. Bonjour Roland Cayrol.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur de recherche associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, directeur du Centre d'études et d'analyse. Vous venez de publier Alerte mondiale, démocratie en danger aux éditions de l'Aube. Quels sont les différents scénarios possibles pour le président de la République après le très probable refus de la confiance vis-à-vis du Premier ministre et donc la chute du gouvernement Bayrou?
Le président a plusieurs possibilités théoriquement. On évoque l'idée qu'il pourrait démissionner, ça je n'y crois pas du tout. Le président a dit qu'il comptait conduire son mandat jusqu'au bout et je crois qu'il le fera. Il pourrait provoquer une nouvelle dissolution de l'Assemblée, ça il en a aussi juridiquement la possibilité. Je pense qu'il n'en a pas non plus très envie, il a été échaudé par sa dissolution précédente. Et on peut penser qu'une nouvelle dissolution ne donnerait pas une assemblée très différente de celle que nous avons. Peut-être même serait-elle pire.
Et comment peut-elle être pire?
Pire, ça veut dire un accroissement des sièges du Rassemblement national. Le Rassemblement national gagnerait en voix et en sièges, sans pouvoir toutefois atteindre la majorité absolue. Donc on serait toujours devant une majorité introuvable. Et donc, je pense que le président est tenu à la troisième solution qui est de désigner un nouveau Premier ministre. Et je pense que c'est ce qu'il fera. Il prendra peut-être son temps. Il a l'habitude de prendre son temps, le président, de réfléchir et tergiverser avant de prendre une décision. Mais je pense qu'il nommera un nouveau Premier ministre.
Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une personne en France, une personnalité capable de rassembler une majorité pour faire adopter le budget?
Une majorité, sûrement pas. Mais les budgets ne sont pratiquement jamais adoptés par une majorité. Les budgets sont en général adoptés avec l'exercice d'un 49-3 qui oblige les oppositions à trouver une majorité absolue contre le gouvernement. Et ça, c'est très difficile. Donc, on peut imaginer qu'un nouveau Premier ministre, plus habile que François Bayrou, faisant plus de concessions aux uns et aux autres, pourrait ne pas avoir de censure et du coup faire aussi voter le budget. On parle beaucoup en ce moment de Gérald Darmanin, qui a fait un discours il y a quelques jours à Troyes, qui était un peu un discours de candidature, avec une main tendue aux socialistes, très clair. Donc ça pourrait être Gérald Darmanin, ça pourrait aussi être n'importe qui d'autre, c'est le choix souverain du président.
Et à chaque remaniement ou chaque changement de gouvernement, il est évoqué la possibilité d'avoir un gouvernement technique ou de techniciens, en clair hein, d'experts dans leur domaine et non affiliés à un parti ou une coalition politique. Un tel gouvernement aurait davantage de marge de manœuvre ou non?
Écoutez, les Français aimeraient bien qu'on sorte des magouilles et des isanies et des tentatives fausses de compromis. Au fond, les Français aimeraient sans doute bien un gouvernement technique qui essaye de résoudre les problèmes. Ça s'est passé en Italie deux fois et ça a plutôt bien marché. Et ça a permis en Italie une transition vers, en fait, le retour de la politique. Je pense que le président de la République n'y est pas favorable. Je pense qu'il n'y a pas de technicien qui s'impose. Quelqu'un comme Éric Lombard n'est plus un technicien, il est devenu un ministre politique. On peut chercher Thierry Breton, etc., etc. Je ne crois pas qu'il y ait de personne qui puisse redresser la barre. Je crois que le problème de l'Assemblée est un problème politique. Comment on sort de cette tripartition des partis politiques pour sortir un budget? Je pense que la solution est plutôt politique. C'est donc plutôt un homme politique qui devrait être nommé.
Et ce vote de confiance interviendra avant la journée de blocage du 10 septembre prochain. Une France sans gouvernement ou avec un gouvernement qui gère les affaires courantes est-elle davantage ou serait-elle davantage sujette à une crise sociale d'ampleur?
Je pense que le social est très décalé du politique. Je pense que les Français, que ceux qui manifestent ou ceux qui restent chez eux, en ont assez. Ils sont très déçus par le spectacle que donne la politique. Et je ne pense pas que ça leur donne extrêmement envie de sortir pour dire leur colère. On n'est pas au temps de la colère, on est au temps de la désaffection, du mépris des politiques, de la part des Français envers les politiques. Il est possible, personne n'a jamais pu prévoir une crise sociale, mais pour le moment, elle ne paraît guère inscrite dans les gènes de ce pays.
Ce que vous décrivez, cela pourrait sembler presque plus inquiétant encore.
Oui, c'est très inquiétant. Un pays très politique, qui s'intéresse à la politique. Les gens en parlent le soir à la maison, ils en parlent entre les générations, ça les intéresse, mais pas cette politique illisible, incompréhensible. Nous sommes le seul pays parlementaire européen qui ait un gouvernement qui ait été constitué sans qu'il y ait le moindre bout de papier, même de 5 lignes, expliquant ce qu'il allait faire. On fait des compromis qui sont des compromis qui ne sont pas signés avec des textes. Tout ça est extrêmement fragile, tout ça ne tient pas bien le coup, les Français le sentent, et ça donne en effet cette désaffection qui n'est pas excellente pour notre République.
Et cette lassitude ou cette désaffection, comme vous le dites, comment est-ce qu'elle pourrait se traduire dans les années à venir? Quelles conséquences elle pourrait avoir sur le plan politique?
Bah, pour le moment, ça paraît assez clair. Ceux qui tirent les marrons du feu, c'est ceux qui disent non, c'est ceux qui disent non, c'est ceux qui disent il faut restaurer de l'autorité, la sécurité est plus importante que tout. C'est le Rassemblement national. Et quelle que soit la tonalité xénophobe, raciste que peuvent avoir les propos du Rassemblement national, eh ben, dans ce pays de lassitude, c'est encore lui qui tirerait les marrons du feu. Je ne crois pas pour autant que le Rassemblement national pourrait conquérir une majorité absolue à l'Assemblée. En même temps, les Français ne souhaitent pas en majorité, et ils le disent aux sondeurs, ils ne souhaitent pas la victoire du Rassemblement national. Donc on va avoir un renforcement du Rassemblement national. Ça va rendre encore plus difficile toutes les coalitions. Mais ça mettrait chacun devant ses responsabilités, devant le risque d'une prochaine victoire du RN.
Et à l'autre extrême de l'échiquier politique français, comment la France insoumise pourrait tirer parti de cette situation?
Ben, la France insoumise, à la fois, elle s'est rendue un peu insupportable à beaucoup de gens. Jean-Luc Mélenchon est devenu le personnage le plus détesté, repoussé par les Français. Il a dépassé Marine Le Pen dans la détestation, il fallait le faire. Et donc le LFI, bien sûr, LFI existe, LFI peut jouer sur un électorat de centre-ville, de jeunes gens déçus, voulant que la gauche soit une vraie gauche, qu'on dise non et disons pardon, merde aux partis politiques existants. Donc, LFI existe et LFI en même temps est trop détesté par ses excès, par ses outrances, par un programme inapplicable pour espérer réellement l'emporter. Donc, il contribuera à ce blocage de la politique avec un parti socialiste qui à la fois voudrait s'éloigner de LFI, mais en même temps se tient un petit peu en position de complice d'LFI, parce qu'électoralement, ça lui sert. Regardez même Olivier Faure, le secrétaire du parti, dans sa circonscription, s'il y a un candidat LFI contre lui, bah sur le papier, il est cuit.
Et même si LFI surprend à l'approche de la présidentielle, c'est arrivé lors des deux dernières élections présidentielles, et on a vu l'ascension fulgurante de Jean-Luc Mélenchon, qui à chaque fois s'est vraiment approché du second tour. Un duel Le Pen-Mélenchon est trop tôt aujourd'hui pour être envisageable avant 2027, mais ce n'est bien entendu pas à écarter.
Non, c'est pas à écarter. La meilleure élection pour Mélenchon, c'est la présidentielle, parce que les gens rendent hommage à son talent de tribun. Ils disent que lui, au moins, il y va, il dit les choses clairement. Il a un électorat chez les jeunes, dans les banlieues, notamment issus de l'immigration, qui pensent qu'en effet, c'est Mélenchon qu'il nous faut, et donc LFI. Mais en même temps, il y a cette chute dans l'opinion qui est que le bruit et la fureur qu'ont voulu LFI ne plaît pas à un grand nombre d'électeurs socialistes modérés, qui sont tout de même jusqu'à maintenant très importants à gauche et qui empêcheront LFI d'avoir une majorité, tout comme ils empêcheraient le RN d'en avoir une. Qu'on le veuille ou pas, les électeurs français, même déçus, même lassés par la politique, ils sont restés assez modérés. C'est tout de même l'arc républicain traditionnel qui reste majoritaire.
Et vous faites part de votre inquiétude, Roland Cayrol, hein, vous publiez Alerte mondiale, démocratie en danger aux éditions de l'Aube. Vous plaidez pour une nouvelle politique sociale, économique, culturelle, et cela en parallèle d'une communication permanente. Il s'agirait de vanter le modèle démocratique, notamment dans l'Union européenne et particulièrement en France. La France pourrait lancer l'alerte. C'est notamment, hein, ce que vous demandez, ce que vous souhaitez.
Oui, absolument. Je pense que nous avons la chance en Europe d'avoir inventé la démocratie libérale, que c'est tout de même le seul système qui permette de vivre dans un oxygène de liberté. On l'oublie parce qu'on y est tellement habitué qu'on ne veut même plus se battre pour cette démocratie. Mais elle est en danger. Elle est en danger comme elle l'est dans la majorité des pays du monde aujourd'hui, qui sont soit des régimes autoritaires, soit des démocraties dites illibérales, comme dit le président hongrois Orban. Et donc, voilà, la démocratie, elle est malade, mais l'Europe est le terrain de cette démocratie, et je crois que ce serait important qu'elle donne aux gens le sentiment que ça vaut le coup de se battre pour elle.
Est-ce qu'elle nous semble trop acquise, cette démocratie, comme si c'était une évidence?
Non, justement, c'est bien le problème. C'est tellement une
C'est
évidence
cela, oui.
que personne n'a envie de se battre pour elle. On n'a pas envie de se battre pour des choses qui sont acquises depuis toujours et dont on pense qu'elle ne sera pas remise en cause. Les Américains sont dans cet état. Ils n'ont pas vu venir, tout en votant pour Trump en majorité, ils n'ont pas vu venir la disparition progressive de toutes les valeurs démocratiques, le rejet de tous les principes de la démocratie américaine. Et bien, ce qui se passe aux États-Unis peut évidemment se passer chez nous. Moi, je crois que l'Europe est le terrain de la résistance possible, mais il y a encore du chemin à faire pour que l'Europe rende désirable la démocratie.
On dit, hein, régulièrement que les États-Unis ont une dizaine d'années d'avance sur l'Europe, d'où votre crainte et l'expression de votre crainte, notamment. Roland Cayrol,
absolument.
un grand merci. Je rappelle que vous
Merci
êtes
à vous.
politologue, directeur de recherche associé au Centre de recherche politique de sciences politiques, directeur du Centre d'études et d'analyse, et vous venez de publier Alerte mondiale, démocratie en danger, un ouvrage aux éditions de l'Aube. Merci, Roland Cayrol.
Merci.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.